France Inter. .fr. Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Léa Salamé a été ambassadeur de France aux États-Unis.
Eh oui, bonjour, bonjour François Bujon-Mletang.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous le confirmer définitivement ce matin? Ce sera bien Trump versus Clinton.
Mais il semble bien qu'arithmétiquement, Hillary Clinton ait hier soir remporté les minimums de 2383 délégués qu'il faut
être
exactement pour être désignée la candidate du Parti démocrate à la convention de Chicago. Sa victoire dans le New Jersey et dans le Nouveau-Mexique est arithmétiquement décisive, quel que soit le résultat de la Californie.
Voilà, et on attend les résultats de la Californie dans la matinée.
C'est
ça semble serré, mais à l'heure où on parle, Hillary Clinton est légèrement en tête, apparemment, selon les premiers résultats. Mais vous dites, quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat, la Californie s'est pliée. Mais alors pourquoi Bernie Sanders refuse de reconnaître la victoire de Hillary Clinton malgré les pressions d'Obama qui doit le recevoir dans les prochaines heures pour lui dire maintenant ça suffit, il faut que tu reconnaisses sa victoire?
Il a toujours dit qu'il se battrait jusqu'au dernier bulletin de la dernière primaire et qu'il voulait être à la convention de Chicago. Il faut comprendre aussi qu'il y a une raison particulière au camp démocrate. Je ne veux pas entrer dans les technicalités, mais il faut bien les comprendre. Contrairement au parti républicain, les démocrates ont des délégués qu'on gagne dans les primaires et ils ont en outre des super délégués qui sont en fait des élus, des gouverneurs, des sénateurs, des représentants qui votent à la convention. Et ceux-là sont acquis massivement à Hillary Clinton. Sanders a toujours dit que s'il se battait jusqu'à la dernière minute et s'il remportait la Californie, il pourrait aller à Chicago avec l'ambition de renverser le vote des super délégués. Voilà,
ouais.
Qui n'ont pas de mandat impératif.
Et c'est
contrairement
pour ça qu'il continue à...
C'est pour ça qu'il continue à se battre. Et puis, il essaye bien entendu de monnayer son futur ralliement qui, à mon avis, ne fait aucun doute.
Hillary Clinton a revendiqué donc sa victoire cette nuit. Vous la connaissez bien, François Bujon-Mletang. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France aux États-Unis de 1995 à 2002.
Je l'ai beaucoup vue quand elle était First Lady et puis ensuite sénateur de New York.
Sur le papier, elle a tout, Hillary Clinton. Elle est femme, elle a de la poigne, elle a de l'expérience. Pourquoi ça ne marche pas? Quel est le problème, Hillary?
C'est une vraie question que se posent beaucoup de gens, y compris dans son état-major de campagne, d'ailleurs, ce qui n'est pas bon signe. Hillary Clinton est une femme brillamment intelligente, extrêmement structurée, connaissant très bien les problèmes, connaissant le monde, connaissant les enjeux, connaissant les protagonistes. Elle a en effet tout pour réussir. Mais ce n'est pas une très bonne campaigner, comme on dit. Elle n'est pas parfaitement à l'aise en campagne. C'est pas une très bonne oratrice. Elle a un peu tendance à être trop sérieuse et à lire son script. Elle parle avec un téléprompteur. Elle parle par paragraphe, comme dit quelqu'un que je connais bien. Et j'aime bien cette formule. Donc elle est un peu ennuyeuse et elle manque de charisme. C'est curieux.
Elle est ennuyeuse, elle manque de charisme,
oui.
Mais c'est pas suffisant pour expliquer son impopularité.
L'impopularité, elle est liée d'une façon générale à ce qu'on appelle la fatigue des Clinton. L'opinion américaine est fatiguée des Clinton. Les Clinton, c'est les années 90, c'est du déjà vu. Ce sont des liens que l'on trouve toujours suspects avec le grand capital ou avec Wall Street. Bref, il y a tout ce facteur de rejet qui s'ajoute à ces insuffisances personnelles en campagne.
Bill Clinton, justement, qu'on pensait être son atout, est de plus en plus perçu, vous le dites, comme intriguant d'un côté et aimant trop l'argent de l'autre. Est-ce qu'il est en train de devenir le boulet de sa femme, Bill Clinton ?
Il ne s'est pas beaucoup montré pendant la campagne. Elle a invoqué ses conseils ou le rôle qui pourrait être appelé à jouer dans l'avenir une seule fois pendant la campagne des élections primaires du Kentucky. Pour l'instant, c'est un atout qu'elle garde dans la manche, ou alors au contraire, un problème qu'elle ne souhaite pas voir apparaître trop vite. Mais Bill Clinton possède énormément de pouvoir au sein du Parti démocrate. C'est un faiseur de rois, c'est un chef de faction, il a jeté tout son poids derrière Obama, par exemple pour la réélection d'Obama en 2012, il pèse très lourd dans le parti.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut empêcher Hillary Clinton de gagner en novembre prochain ?
Tout peut arriver en politique, comme chacun sait. Elle peut sauter sur une mine antipersonnelle un jour, ça peut être n'importe quoi.
Elle peut être renversée dans la
rue. Non, mais je parlais politiquement de façon figurée. Elle traîne quelques affaires depuis des années.
Il y a l'affaire des mails, il y a l'affaire de la Fondation Clinton, il y a quand même quelques boulets.
Il y a beaucoup d'affaires que Trump, par exemple, veut ressortir. Ouais. Il parle de l'affaire de Whitewater. Whitewater, ça nous envoie aux années 90, aux premières années des Clinton. C'était un petit scandale immobilier dans lequel on a voulu les mouiller. Ça n'a jamais mené nulle part. Donc, beaucoup de ces affaires ne mèneront nulle part. Ce qui peut la gêner le plus, c'est probablement l'accusation d'avoir des liens trop trop serré avec Wall Street ou avec des puissances de l'argent. Ce sont les relations de la Fondation Clinton avec un certain nombre, j'allais dire, de chefs d'État étrangers ou de gouvernements étrangers.
Du Golfe, notamment.
Oui, par exemple. Ça peut être utilisé, bien entendu, contre elle. Et puis, il reste l'affaire des mails, d'avoir utilisé son serveur personnel. Apparemment, beaucoup de ses prédécesseurs secrétaires d'État ont fait la même chose. Je sais qu'un rapport du FBI doit être publié incessamment, mais il n'est pas du tout sûr que ce soit suffisant pour ruiner sa candidature.
François Bigeon-Blétan, quand on vous entend ce matin sur cette suspicion à l'égard des élites, on se dit que une fois de plus, aux États-Unis, on va avoir ce vote anti-élite. En tout cas, ça va se jouer sur ça. Et ce qui est étonnant, c'est-à-dire que les États-Unis, en général, le vote anti-système ou anti-élite, c'est quand l'économie va mal. Or là, l'économie aux États-Unis va bien, comme en Autriche d'ailleurs, où ils ont voté à près de 50% pour l'extrême droite, alors que l'économie va bien. Est-ce que vous comprenez ce phénomène-là? Et est-ce que finalement, c'est la fin de la fameuse phrase de James Carville, le conseiller de Bill Clinton en 92, qui expliquait sa victoire en disant « It's the economy, stupid ». Est-ce que c'est fini? C'est plus l'économie?
Non, c'est encore l'économie, parce que les cicatrices de la grande crise de 2008-2009 continuent de se faire sentir, les plaies ne sont pas refermées. Il y a énormément d'Américains qui ont perdu leur logement avec la crise des subprimes, par exemple, la crise du marché hypothécaire. Les inégalités de revenus se sont accentuées tout au cours de ces dernières années. Il y a énormément de gens, ce qui est un ferment classique du populisme, qui ont peur de la prolétarisation, qui ont peur de la concurrence et qui se sentent très très vulnérables. C'est la raison pour laquelle le populisme fait recette aux États-Unis comme en Europe. Trump...
leur parle à eux.
Oui, Trump chez les Républicains ou Sanders chez les Démocrates font appel à tous ces électeurs désenchantés ou inquiets. Madame Clinton, par opposition, est l'incarnation même de l'establishment.
Ouais. Donald Trump a pour la première fois calmé un peu le jeu cette semaine. Il s'est excusé, c'est rare chez lui. Il s'est excusé parce que même au sein de son parti, on le traite de raciste maintenant, parce qu'il a insulté un juge d'origine hispanique. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il va comprendre, j'en sais rien, mais en tout cas que stratégiquement, il va se calmer sur les outrances?
Il va lui falloir se calmer sur les outrances, sinon elles peuvent lui être tout à fait fatales. Effectivement, sa sortie contre un juge d'origine mexicaine était très malheureuse. Le Parti républicain ne s'est rallié à lui ou n'est en train de se rallier à lui qu'avec énormément de réticence, et il va falloir en effet... D'ailleurs, depuis 2 jours, il parle avec un téléprompteur.
Ah, big news, comme on dit. Vous pensez que c'est... Vous pouvez imaginer que Trump soit élu président des États-Unis?
C'est pas la solution, c'est pas l'hypothèse la plus probable, mais on ne peut pas l'exclure s'il continue à surfer sur une vague de populisme qui n'arrête pas. Mais ce n'est pas le plus probable.
François Bigeon-Blétan était notre invité. Merci à vous et belle journée.
Merci Léa Salamé. Et au moment où nous parlons, Bernie Sanders qui fait durer le plaisir ou le suspense en s'adressant à son public, à ses supporters, à Santa Monica. 10 minutes de discours, pas un mot sur Hillary Clinton. Il parle comme s'il avait lui-même l'investiture démocrate. Il est 8h-3.